Merci Laetitia et bonjour à tous. Aujourd'hui, première de deux émissions spéciales sur le pays le plus mystérieux du monde, le Tibet.
Le Tibet est élevé et sa terre est pure. Ses montagnes enneigées sont l'origine de tout, la source d'innombrables rivières. C'est le centre du domaine des dieux. Manuscrit de Duang Hong, 8e siècle.
D'histoire. À 4000 mètres d'altitude, sur un territoire grand comme 7 fois la France, la civilisation tibétaine est une des plus originales et des plus mystérieuses du monde. Pendant longtemps, on n'a rien su de ce pays, sinon des légendes colportées par les premiers voyageurs occidentaux, qui à l'époque de Marco Polo s'étaient arrêtés prudemment au pied de l'Himalaya. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle que deux prêtres européens, les pères Gruber et Dorville, ont été les premiers à atteindre la capitale interdite du toit du monde, Lhasa et l'immense palais du Potala, où pendant 4 siècles, les Dalai Lamas ont gouverné un pays tellement coupé du monde extérieur que seuls quelques rares voyageurs ont eu l'audace de s'y aventurer.
Aujourd'hui, nous sommes aux portes de la cité interdite de Lhasa. Aussi difficile à atteindre que la Mecque et aussi fascinante. Car elle est fermée à tous les étrangers. Malgré notre état misérable, nous ressentons l'appel de la ville sainte, demeure du Dalai Lama. Peu d'étrangers ont pénétré ces mystères. J'espère que tu comprendras que la distance qui nous sépare n'est pas aussi grande qu'elle paraît. Avec toute mon affection, ton père, Heinrich Harrer.
Françoise Pomaré, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait du film de Jean-Jacques Hano, 7 ans au Tibet, l'histoire authentique de deux Allemands arrivés à Lhasa à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient, vous le rappelez dans un livre, pratiquement les deux seuls Européens vivant au Tibet à cette époque. Pourquoi est-ce que le Tibet, jusqu'à l'invasion chinoise, on nous parlerons demain avec vous, pourquoi est-il resté comme ça coupé du monde? C'était volontaire? C'était délibéré?
Alors il y avait à la fois une fonction volontaire de se couper du monde qui a commencé en fait au 19e siècle, au début du 19e siècle. Il y a eu une décision politique de fermer le Tibet aux étrangers occidentaux. Mais une chose que l'on ne comprend pas toujours, c'est que le Tibet n'était pas fermé à ses voisins. C'est-à-dire il y avait des Népalais, des Bhoutanais, des Chinois qui passaient au Tibet, qui voyageaient au Tibet, qui faisaient du commerce avec le Tibet. Mais pour les occidentaux, c'était en effet un pays interdit. Mais il y avait aussi, bien sûr, la question de la géographie.
Oui, c'est un pays quasiment inaccessible, 4000 mètres d'altitude moyenne, c'est quand même un sacré obstacle. Le château d'eau de l'Asie, hein, vous le rappelez dans votre livre qui a été publié chez Gallimard Découverte, tous les grands fleuves asiatiques, le Mékong, le Yangtze, le Brahmapoutre, prennent leur source au Tibet.
Oui, le Tibet est une espèce de réservoir, de château d'eau, un plateau. Et pour sortir de ce château d'eau, il faut franchir des montagnes, soit par des gorges, soit par des cols. Et bien sûr, les fleuves le font par des gorges.
Alors tout est un peu mystérieux dans ce pays, donc inaccessible, très très élevé. Même les frontières, même l'origine aussi de la population est difficile, dites-vous, à établir. D'où viennent les Tibétains?
On ne sait pas exactement d'où viennent les Tibétains. Probablement une branche des grandes populations qui, à l'époque proto-historique, nomadisaient dans le nord de la Chine et du Tibet au confluent avec la Mongolie. Mais on ne sait pas exactement d'où viennent les Tibétains et s'il y avait une seule origine aux Tibétains ou plusieurs origines de population.
Et puis alors aussi un pays dont les frontières sont difficiles à définir puisque elles ont été variables dans le temps. La civilisation tibétaine recouvre un espace, je disais tout à l'heure, je crois à peu près de 3,5 millions de kilomètres carrés. L'actuel Tibet, province chinoise, est beaucoup plus petit.
Oui,
Françoise Pomaré.
L'actuel Tibet ne fait, la région autonome du Tibet, ce que les Chinois appellent la région autonome du Tibet, le Xinjiang, ne fait que 1,2 million de kilomètres carrés. C'est-à-dire extrêmement petit par rapport à l'ère culturelle et même à l'ère historique à certaines périodes, puisqu'au 7e siècle, le Tibet était un empire.
Oui, c'est ça. Alors, on le rappelle, avant même que le bouddhisme devienne la religion officielle, il y avait d'ailleurs une autre religion, on en parlera, c'était historiquement très important. Il y a un roi, je crois, qui a fait, effectivement, avec ses cavaliers, du Tibet un immense empire qui allait très loin.
Oui, le roi tibétain Sonzen Gampo, au 7e siècle, a non seulement unifié le Tibet central, ce qu'on appellerait aujourd'hui le Tibet central, mais est allé jusque dans les régions actuelles nord-ouest de la Chine, dans le corridor du Kansu, aux frontières avec la Mongolie et le désert de Gobi. Il est allé aux frontières avec la Chine telle qu'elle était à l'époque. Il est allé jusqu'au Népal et il est allé à l'ouest, extrêmement loin, jusque pratiquement au Cachemire, l'actuel Cachemire.
On dit même qu'il aurait atteint le golfe du Bengale, si bien que chose extraordinaire pour un pays enclavé comme le Tibet. Je crois qu'on appelait à l'époque le golfe du Bengale l'océan tibétain. Ça, on n'en est pas sûr.
On n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est vrai qu'il y a.
Alors, le pays ensuite s'est décomposé, s'est divisé en plusieurs petits royaumes, hein, avant de se réunifier sous l'emprise du Dalai Lama. Cela dit, justement, autre particularité, justement, du Tibet, c'est précisément la religion et la place qu'elle occupe, le bouddhisme, qui n'est arrivé qu'assez tard, au fond, dans l'histoire, au 7e siècle à peu près.
Oui, le bouddhisme est arrivé au 7e siècle au Tibet, à la fois de Chine et de l'Inde. On avait, bien sûr, les Tibétains avaient davantage de contacts à partir du 7e siècle avec l'Inde, mais il y a également une partie de leur bouddhisme qui est venue de Chine, et ce sont donc les deux grandes civilisations, l'Inde et la Chine, qui ont apporté le plus qu'est le bouddhisme au Tibet, pour lequel le Tibet est aujourd'hui connu.
Certains empereurs mongols, dit-on d'ailleurs, ont été convertis au bouddhisme par les Tibétains.
Oui, absolument.
Les empereurs. Kublai Khan, non, c'est ça?
Oui, c'est ça. Les empereurs mongols étaient extrêmement tolérants. Kublai Khan avait une mère chrétienne, d'ailleurs, et ils étaient très intéressés par les pouvoirs qu'on attribuait aux prêtres bouddhistes.
Les lamas.
Les lamas, oui, ce qu'on appelle en Occident les lamas.
Les lamas. Cela dit, vous rappelez aussi une chose, Françoise Pomaret, c'est que les lamas ne sont pas forcément, comme on le croit, comme je le croyais avant de vous lire, des moines.
Non, lama est un terme qui veut dire gourou, c'est-à-dire le maître. C'est la traduction du terme sanskrit gourou, ça veut dire le maître, donc le maître spirituel. Et vous pouvez être un lama, et si vous n'avez pas pris des vœux de moine, vous pouvez très bien être marié. Donc un lama peut être un laïc. D'une certaine façon, on dirait. C'est difficile avec nos catégories.
En tout cas, c'est pas le cas du premier d'entre eux au sommet de la hiérarchie religieuse, le Dalai Lama, dont le premier, je crois, est apparu il y a 450 ans environ. Je crois même que c'est un mot mongol, Dalai Lama.
Alors, le Dalai Lama est un mot mongol qui a été donné par un chef mongol à un grand lama de l'école des Gelugpa, et Dalai Lama veut dire océan de sagesse. En tibétain, Dalai Lama ne se dit pas Dalai Lama, dit Yeshenorbu, c'est-à-dire le joyau précieux.
Et d'ailleurs, Tibet ne se dit pas Tibet en tibétain.
Tibet, non, se dit peu.
Peu.
Oui.
P-O, accent circonflexe, c'est ça?
Oui.
Non, P-O...
Comme vous voulez.
Voilà. En tout cas, c'est Dalai Lama, depuis 450 ans, se succède jusqu'au dernier, celui qui est aujourd'hui en exil et qui est devenu le chef spirituel du Tibet, 2 ans à peine après la mort du 13e Dalai Lama en 1931.
Le Bouddha de la compassion, le joyau qui comble les vœux, le 14e Dalai Lama.
Vous avez choisi de reparaître dans cette vie une fois de plus. Vous resterez aussi longtemps que vous le pourrez. Et puis, vous reviendrez encore. Vous continuerez de renaître encore et encore, aussi longtemps que toute vie continuera. Aussi longtemps qu'un être vivant respirera. Où qu'il soit, ce sera là que, par compassion, le Bouddha apparaîtra.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le Tibet.
C'était un extrait du très beau film de Martin Scorsese, Kundun, très, très fidèle à la réalité, je crois,
oui,
Françoise Pomaret.
Oui, Martin Scorsese a une sensibilité extraordinaire, je crois, en ce qui concerne les religions. Et il a vraiment été tout à fait subjugué par la vie du Dalai Lama. Et il a vraiment rendu de façon poétique, mais réelle, cette vie du Dalai Lama. Très, très bouleversant, un film bouleversant.
Et du bouddhisme, hein, parce que le 14e Dalai Lama, celui qui oui. vit encore, que l'on voit un peu partout dans le monde, puisqu'il est en exil, c'était le 14e, justement, il y en a eu beaucoup. Donc c'était l'incarnation du Bouddha, c'est ça?
C'est un petit peu compliqué, mais disons que le bouddhisme tibétain ne peut pas représenter le bouddhisme en général. Le bouddhisme tibétain a les mêmes préceptes que les autres catégorie de bouddhisme, pour parler simplement, mais il a quand même des particularités. Cette particularité est que l'on peut se réincarner dans le monde en tant que lignée, c'est-à-dire comme les Dalai Lama, comme les Trulku. Ça veut dire incarnation dans le monde, émanation dans le monde. Et donc, les Dalai...
Les Trulku, c'est une catégorie de lama, catégorie supérieure.
Voilà, ce sont les réincarnés qui se réincarnent dans cette vie, dans les vies, vie après vie. Donc, et le 14e Dalai Lama en est l'illustration la plus connue en Occident.
Mais qui choisit celui qui va réincarner le Dalai Lama précédent, François Samaré?
Alors, c'est un petit peu compliqué. Il y a plusieurs modes de sélection. L'un des modes de sélection le plus courant est qu'en général, la personne qui meurt, on dit qu'il s'en va en tibétain, est simplement... va faire un rêve ou va donner quelques orientations prophétiques, souvent assez difficiles. Et à ce moment-là, on envoie des émissaires à travers le pays pour retrouver l'enfant. Et parfois, il y a plusieurs enfants.
Alors, la particularité du Tibet, c'est pas seulement le Dalai Lama, c'est pas seulement le bouddhisme, c'est que le Dalai Lama est à la fois, depuis 1642, vous le disiez, est à la fois chef temporel, spirituel et temporel. C'est une théocratie. Oui. De quand ça date, ça? Et est-ce que ça a toujours été le cas dans l'histoire relativement récente du Tibet, François Samaré?
Justement, comme vous le dites, 1642, c'est vraiment la date tournante dans l'histoire du Tibet, puisque le chef d'une école qui s'appelait les Gelugpa, donc le Dalai Lama, prend le pouvoir temporel avec l'aide de ses alliés mongols, monte sur le trône temporel du Tibet, réunifie le Tibet et en même temps, de fait, devient également le chef spirituel, même si les autres écoles du bouddhisme tibétain conservent leur chef spirituel.
C'était le cinquième Dalai Lama, ce qu'on appelait le grand cinquième, c'est ça. Et alors, il y a aussi, deuxième dans la hiérarchie du clergé bouddhiste, là-bas, du bouddhiste tibétain, il y a le Panchen Lama. C'est quoi? C'est le premier ministre?
Non, pas du tout. C'est en fait un réincarné. Et le titre de Panchen Lama a été donné justement par le grand cinquième à son maître, par vénération. Il l'a appelé Panchen Lama, ça veut dire le lama qui sait tout, Panchen, le lama omniscient, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, à partir du cinquième Dalai Lama, donc à partir du XVIIe siècle, il y a eu une lignée de Panchen Lama. Et actuellement, nous avons le 11e Panchen Lama.
Et le 14e Dalai Lama.
Et le 14e Dalai Lama.
Alors, les deux gouvernent une société qui est restée quand même figée pendant de très longs siècles, ce qui d'ailleurs a servi aux Chinois pour justifier leur invasion du Tibet à partir de 1950. On écoute justement une grande admiratrice de Mao Tse-tung, An Su-yin, au micro de France Inter en 1976.
C'était le 7e siècle. Et ceux qui parlent avec regret de ces grandes cérémonies mystiques, je dois quelquefois leur demander s'ils aimeraient, eux, vivre au 7e siècle avec une inquisition terrible, avec des tortures épouvantables, avec 93% de la terre appartenant à 626 personnes et le reste de la population, donc à peu près 95%, étant des serfs et des esclaves, ce qui était au Tibet, il n'y avait pas de droit humain. Alors c'est aux gens de choisir s'ils choisissent l'être humain ou s'ils choisissent un vague mysticisme qu'ils n'avaient pas, eux, à subir.
C'était An Su-yin en 1976, un véritable réquisitoire. Hein. Est-ce que c'était vrai? On a du mal à croire, quand on voit aujourd'hui le Dalai Lama, que c'était une société aussi brutale, aussi féodale et aussi arriérée que celle qu'elle décrit.
Oui, en plus, An Su-yin n'a absolument pas de sens historique, puisqu'elle amalgame des statistiques, soi-disant, systématique des années 60 avec le 7e siècle. Donc, voyez, là, on est vraiment dans la propagande. Il est certain que le Tibet était une société, je dirais, médiévale, avec des grands propriétaires terriens, dont les monastères étaient des grands propriétaires terriens également, et une société de paysans très importantes, qui travaillaient soit pour leur compte, c'est-à-dire qui avaient leur propre terre, soit qui travaillaient comme métayers. Le système de métayage était extrêmement répandu. Il y avait également, non pas des esclaves, mais probablement des serfs. Des serfs, certes, il y avait des serfs au Tibet, mais la situation, d'abord, a certainement évolué au cours des siècles. On ne peut pas prendre une société figée sur 20 siècles, ça c'est absolument impossible. Et puis ensuite, la société n'était pas une société de torture. En tout cas, tous les Tibétains que vous rencontrez actuellement, y compris au Tibet, qui ont vécu cette période-là, ne sont pas traumatisés par cette période-là.
En tout cas, c'est une société, un peuple et un pays qui a toujours fasciné les Occidentaux. Depuis très longtemps, vous dites que Hérodote, 5 siècles avant le Christ, parlait du Tibet, ou plutôt de la région du Tibet, parce que le mot, le nom, l'État n'existait pas, François Pomaret, il en parlait en disant que c'était le pays, un pays avec des fourmis géantes qui recherchaient de l'or. Il y a le Tibet est présent dans chez Hérodote, le premier historien?
Oui, on peut dire le Tibet, mais il faut faire attention. En fait, là, il parle essentiellement de la région qu'on appelle le Ladakh, qui est dans le nord de l'Inde actuellement, qui est de culture tibétaine, où il y avait effectivement beaucoup d'or. Et Hérodote, car vous savez que les Grecs étaient extrêmement intéressés par la géographie, avait entendu parler par les récits de certains voyageurs que les liens avec l'Inde étaient courants, et donc qu'il y avait ces animaux qui recherchaient des pépites d'or. Donc c'est assez drôle. Déjà, dès Hérodote, on retrouve mention du Tibet chez les Occidentaux.
En tout cas, les Occidentaux, pendant longtemps, ont imaginé un Tibet plus ou moins légendaire, et cela depuis des siècles. On écoute la revue de texte de Stéphanie Duncan.
Oui, le mythe du Tibet inaccessible est ancien en Europe. Au milieu du XIIIe siècle, découvreurs de la Chine rapportent ce qu'ils ont entendu dire des Tibétains, des sauvages à les entendre. Ce sont des païens, affirme par exemple Jean Duplan Carpin. Ils ont cette coutume incroyable que si quelqu'un meurt, toute sa parenté se rassemble pour le manger. Le franciscain d'Apordonone, lui non plus, n'a jamais mis les pieds au Tibet et il parle de ces coutumes abominables. Au XVIIe siècle, en revanche, on commence à connaître un peu le Tibet, grâce aux récits des jésuites portugais, notamment Antonio de Andrade. Il est frappé par l'accueil chaleureux du roi, qui lui a dit « Nous, roi du grand royaume du Tibet, ayant éprouvé un plaisir extrême de l'arrivée du père Antoine, lui octroyons pleine et entière puissance de prêcher librement sa foi et lui accordons un emplacement pour construire une église. » Ces missionnaires rapportent des informations précises sur les mœurs des Tibétains. Ils sont vêtus de tuniques de tissu de laine grossière et de culottes, les hommes comme les femmes, s'étonne Francisco de Azevedo. Ils coiffent leurs cheveux en tresses, soigneusement enduites de beurre. Ils sont tous aussi sales les uns que les autres. Mais en 1810, le Tibet décide de fermer ses frontières aux étrangers. 1000 difficultés attendent dans ces régions le voyageur européen, constate au 19e le russe Przewalski. Les hommes et la nature semblent se liguer contre lui. Cette interdiction, évidemment, ne fait que renforcer le mythe d'une terre mystérieuse et désirable. En 1904, un colonel britannique parti avec son armée à la conquête du Tibet est littéralement envoûté. « Je fus, dit-il, insensiblement envahi par une sorte d'exaltation délicieuse, par une immense bonne volonté. Jamais plus je ne pourrai être l'ennemi d'aucun être humain. » En 1910, le français Jacques Bacot est victime lui aussi de cette drogue. « Quel est donc le charme redoutable de ce pays étrange, dit-il, où toujours sont retournés ceux qu'il avait une fois entrevus ? Pour retrouver ces montagnes et ces hommes, on traverse toute la Chine au palan des chameaux ou des mules. Ce pays est le Tibet, isolé du monde et si voisin du ciel. » Un rêve mystique, partagé à la même époque par le poète Victor Segalen, qui hélas ne pourra pas se rendre à Lhasa. Frustré, il écrit alors ses vers exaltés. Lhasa, tais-toi son d'or. Oh Lhasa, je n'irai pas à Lhasa.
Et oui, à l'époque de Victor Segalen, au début du 20e siècle, le pays était interdit. On y reviendra, Françoise Pomaret. Mais avant les écrivains, avant ce colonel dont on reparlera, les missionnaires ont été les premiers d'abord à en parler, puis à le découvrir. Pourquoi ? C'était pour essayer de convertir au christianisme les bouddhistes ?
Oui. En fait, oui, c'était les missions, c'est la mission d'abord des Capucins de Goa qui a envoyé des premiers missionnaires à l'ouest du Tibet. Et puis tout de suite, suivi par les Jésuites. Et en effet, ils voulaient convertir les Tibétains, ce qui n'a pas été un grand succès, mais qui nous a permis, nous occidentaux, d'avoir des récits de voyages extraordinaires, d'un intérêt non seulement ethnographique, mais également d'un intérêt religieux tout à fait exceptionnel, puisque ces missionnaires étaient du XVIIe siècle, étaient des gens extrêmement intéressés par la religion et qui faisaient des comparaisons entre le catholicisme et le bouddhisme tibétain. Donc c'est très très intéressant et très important, ce qui ne sera plus le cas après ça sera beaucoup plus méprisant vis-à-vis des Tibétains.
Puis après, ce sera après les missionnaires, va venir l'heure des militaires, des commerçants, surtout, on l'a entendu à l'instant, anglais et russes. Pourquoi les anglais et les russes s'intéressent au Tibet? Qu'est-ce que peut leur apporter, en quoi présente-t-il un intérêt?
Parce que le Tibet, pour eux, représente le cœur de l'Asie centrale, l'accès au fleuve de toute l'Asie, et c'est un espace géopolitique très important. Et cela fait partie du grand jeu, ce qu'on appelait le grand jeu au début du XXe siècle, entre les Russes et les Anglais, le contrôle de l'Asie centrale. Et le Tibet faisait partie de ce contrôle de l'Asie centrale.
Et puis alors, parmi les Anglais, il y avait, on l'a entendu aussi, ce colonel qui s'appelait Young Husband, hein, qui a été brutal en 1904 avec une expédition militaire. Il occupe Lhasa, il y a environ 1000 morts, et cet homme est devenu, on l'a entendu, un fou du Tibet. C'est assez extraordinaire, il s'est littéralement converti au Tibet.
Oui, Young Husband n'a pas fait 1000 morts à Lhasa. Il y a eu une bataille, bien avant d'arriver à Lhasa, où en effet les Tibétains ont été massacrés. Et là, Young Husband a commencé à prendre conscience, ça lui a fait une prise de conscience, il a dit c'est un massacre, c'est une catastrophe, et ça ne correspondait pas du tout à son esprit chevaleresque. Et ensuite, une fois arrivé à Lhasa, en effet, on a un Young Husband qui devient un appel de la foi, un peu comme Claudel l'a eu d'une certaine façon. Il a vraiment, et il n'a jamais été le même. D'ailleurs, il l'a payé de sa carrière.
Alors, parmi les explorateurs que vous citez, Françoise Pommeret, il y en a une évidemment qu'on ne peut pas ne pas citer. En 1924, une exploratrice française de 56 ans, Alexandra Davinel, qu'on écoute ici dans cette archive de l'INA en 1957.
Il existait alors une carte semi-officielle de cette région. Elle avait été établie d'après les renseignements. Elle ne laissa pas que de me causer des difficultés, tout en m'amusant un peu. En effet, je vis les rivières couler à des endroits très différents de ceux qu'elle occupait sur la carte. Alors, de retour en France, avant de repartir pour un nouveau voyage au Tibet, j'eus l'occasion de rencontrer Charcot. Alors, je fis part à Charcot de l'étonnement que m'avait causé la conduite des rivières que j'avais vues couler hors des endroits désignés à leur cours par la carte. « Ce sont les rivières qui ont tort de n'être pas à leur place », me dit le grand explorateur.
C'était Alexandra Davinel en 1957, elle avait 89 ans, mais elle avait déjà 56 ans, 24, quand elle découvre un Tibet qui la fascine. Comment, d'abord, vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez connu.
Non, je ne l'ai pas connu, malheureusement, mais c'était une personnalité extraordinaire et peu facile, peu commode.
Ouais, ouais. Il fallait du caractère pour aller au Tibet à l'époque, parce qu'il était encore interdit et très peu d'Européens. Comment expliquer cette fascination que vous avez sans doute éprouvée vous-même, parce que vous le connaissez bien le Tibet, vous y allez très souvent, Françoise Pommeret, pour le Tibet? Est-ce que c'est le côté inaccessible? Est-ce que c'est l'étrangeté de ce pays où la religion commande tout? Qu'est-ce qui explique cette fascination? La beauté peut-être des paysages?
D'abord la beauté des paysages, la gentillesse des gens et le sourire des gens qui vous permet, qui ne se prennent jamais vraiment au sérieux. Ça, c'est très important, surtout dans notre société actuellement. En ce qui concerne Alexandra Davinel, je ne peux pas me mettre à sa place. Évidemment, elle était dans un contexte tout à fait historique complètement différent. C'était une femme extrêmement curieuse et qui avait toujours le désir d'acquérir de nouvelles connaissances. Et le bouddhisme, c'était très important pour elle, c'était sa vie. Donc elle voulait aller aux sources du bouddhisme. Et rien ne l'aurait arrêtée. Et c'est comme ça qu'après plusieurs tentatives qui ont échoué pour rentrer au Tibet, elle a réussi en tant que mendiante, en se déguisant en mendiante, à arriver à Lhasa. Et c'était un voyage d'une dureté extraordinaire.
Oui, d'autant plus que c'était encore, donc c'est pour ça qu'elle se déguisait, c'était encore interdit. Vous évoquez d'autres expéditions, par exemple une expédition très curieuse, commanditée en 1938 par le régime nazi. Himmler a envoyé une expédition au Tibet.
Oui.
Pourquoi? Est-ce que c'est pas à cause du fait que l'emblème du nazisme, c'était la svastika, qui est un emblème en fait très ancien, qui représente le soleil et qu'on retrouve au Tibet?
Qu'on retrouve au Tibet, qu'on retrouve en Inde également, c'est un motif hindou également, on le retrouve très très fréquemment en Asie, et Himmler a été fasciné par ce symbole, mais également la swastika nazie est à l'envers de la swastika bouddhique, je tiens à le signaler quand même. Et le Himmler...
Tout est à l'envers d'ailleurs, entre le nazisme et le bouddhisme tibétain, c'est vraiment le contraire.
Et il pensait peut-être trouver une race exceptionnelle. Il y avait aussi la notion de race qui jouait dans cette expédition, l'expédition Schaffer, et on a un film de l'expédition Schaffer où l'on voit ces messieurs en train de prendre des mesures anthropomorphiques de ces pauvres Tibétains, les dents, les oreilles, le crâne, etc.
Puis il y a aussi, on en parlera peut-être demain, ces deux alpinistes, donc Harer et Hofschneider, hein, qui ont vécu 7 ans au Tibet à la fin des années 40, les seuls Européens présents quand les Chinois donc ont envahi le Tibet en 1950. On en parlera demain avec vous, Françoise Pomaret. Alors je rappelle, je vous remercie, donc que vous venez de publier Le Tibet, une civilisation blessée, publiée dans la collection Découverte chez Gallimard. Je mentionne, puisqu'il me reste quelques secondes, également deux expositions qui se tiennent actuellement à Paris. La première, jusqu'en août, une exposition de géologie, Himalaya, Tibet, aux sources d'une histoire nationale, je crois le titre de cette exposition. Et puis la seconde, au musée Guimet, rituel tibétain, vision secrète du 5e Dalai Lama. Donc c'est jusqu'en février. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Kundun de Martin Scorsese et 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano, tous deux disponibles en cassette chez Pathé Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Philippe Jeanne et Julien Chabassu. Documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne.